93. La radio du sport à Québec. Entrevues, analyses, faits marquants. Le monde du sport passé en revue. Voici l'avant-match avec Dan Poul.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'avant-match, émission numéro 2205. J'espère que vous allez bien. Quelle sorte de week-end sportif avez-vous eu? Est-ce que, comme mon chum Will, vous avez trippé sur le UFC 40 secondes, puis vous avez regardé le match Packers-Niners 40 secondes aussi? C'est à peu près la même durée, hein, le UFC, puis la finale de conférence de la Conférence nationale. Dans l'autre match, on a eu quasiment un demi-match. J'ai hâte d'entendre Will sur ses impressions sur les finales de conférence, parce que bien que j'adore ça, j'essaie de regarder à peu près tous les matchs qui sont importants. Ben, je serais menteur de vous dire qu'hier, j'ai regardé ça du début à la fin des deux matchs. Mais je vais quand même faire un événement Super Bowl, là. Je sais pas encore quoi, mais c'est sûr que je vais regarder le Super Bowl. J'ai eu le bonheur et le privilège d'aller voir trois matchs du Super Bowl en personne. C'est impensable pour moi. Exemple, d'aller arbitrer une game de hockey mineur dimanche le 2 février à 18h30. J'espère qu'il n'y a pas trop de matchs de hockey mineur dans la région. Et j'ai une bonne info, je fais une petite parenthèse là-dessus. J'ai arbitré hier un match Bantam 3 à l'aréna du Berger. Puis il me semble que Samuel, avec qui j'arbitrais, m'a dit que, un, parce qu'il y a plusieurs assignateurs de matchs, vous avez compris, là, dans la région, il y a tellement de matchs que ça ne peut pas être une seule personne qui assigne tous les matchs. Il me semble que Samuel, hier, m'a dit, « Dan, je me souviens pas lequel des assignateurs, mais il a demandé est-ce qu'il n'y a pas de match le soir du Super Bowl, ce qui est totalement logique. S'il fallait que des jeunes, dans le Pee-wee ou dans le Bantam, aient des matchs le soir du Super Bowl, ça serait un peu absurde parce que la Ligue nationale de hockey n'en a même pas. » Fait que les autres ont compris l'ampleur de l'événement. Faudrait peut-être que dans le hockey mineur, dans la région, on comprenne l'ampleur de l'événement. Le seul petit bémol que je mettrais à ça, si vous me permettez, c'est quand il y a un tournoi de hockey mineur. Là, à un moment donné, si le tournoi est présenté 30, 31, 1-2 du jeudi ou dimanche. On a choisi cette fin de semaine-là. Là, il faut faire avec. Puis ça se peut qu'il y ait une finale à 16h30. Puis savez-vous quoi? C'est tellement le fun de jouer une finale de hockey mineur que ça, c'est une bonne raison pour peut-être manquer le début du match du Super Bowl ou le match au complet si votre tournoi est présenté à Sherbrooke ou à Laval. Mais si c'est dans la région, ça s'arrange mieux, puis je vous dirais que c'est moins pire un peu parce que jouer une finale d'un tournoi de hockey mineur, peu importe le niveau, peu importe la catégorie. J'avais dit ça à mon neveu quand il jouait Atome 2B. Il s'était présenté à l'aréna de Sainte-Julie. Le tournoi Atome qui porte le nom de Christopher Letang. Est-ce que c'est l'aréna de Sainte-Julie qui porte le nom de Christopher Letang ou c'est le tournoi Atome? Là, je suis un peu mêlé, mais Christopher Letang a un lien avec Sainte-Julie. Et mon neveu Charles, quand il s'est présenté là, puis ils ont gagné le tournoi dans le Atome 2B avec son équipe, à ce moment-là, j'avais dit « Hey Charles, profite-en. » Parce que des tournois de hockey mineur, dans une carrière de hockey mineur, on s'entend, à ton Pee-wee Bantam Midget, c'est 2 ans par catégorie, c'est donc 8 ans de hockey mineur à 3 tournois par année, ça donne 24 tournois. C'est assez rare qu'on en gagne. Mettons, Will, si tu me dis avec ta main combien de tournois que tu as gagné dans ton hockey mineur, d'après moi, ça dépasse pas 2. 3. Et 3, tu as eu une bonne année. Will, avec sa gang, l'ancienne Lorette, c'était une bonne cuvée. Moi, je pense, et là, il faudrait que je refouille encore un peu, parce que j'ai un très bon souvenir du tournoi midget de Beauport. J'en parle quasiment chaque année. Puis en fin de semaine, j'ai vu Pat Dion, qui est un chum d'enfance à moi, parce qu'on avait la fête d'un autre ami. Puis Pat et moi, ça faisait un petit bout qu'on ne s'était pas vu. Fait qu'on s'est remémoré des souvenirs du tournoi midget de Beauport. Lui, c'est le goaler qui avait complètement dominé le tournoi cette année-là. On a gagné le tournoi midget à Beauport, puis je me souviens pas dans les autres années, Bantam, puis oui, compagnie, je me souviens même pas. Peut-être qu'on a gagné une autre fois un tournoi. Ça fait 2 tournois, ça, sur entre 20 et 24 tournois, tu sais, pour un jeune qui joue tout sur hockey mineur. Fait que, honnêtement, de participer à une finale, puis de gagner ultimement un tournoi de hockey mineur, c'est bien le fun. Puis je vous souhaite ça à tout le monde qui nous écoute actuellement. Je sais que j'avais des amis en fin de semaine au tournoi Pee-wee Jonquière, tournoi très bien organisé. Moi, je suis jamais allé, mais je sais que c'est un tournoi qui a une très bonne réputation. Et il y a des jeunes du séminaire Saint-François de mémoire dans le Pee-wee Relève qui sont revenus avec la 3e place. Ils ont gagné la finale consolation. Beaucoup d'action dans le monde du sport en fin de semaine. Et c'est très rare que je fais ça dans mon émission. Je vais donner un résultat. Et on va parler de football pour la prochaine demi-heure. Puis dans la 2e portion de l'émission, on va parler avec Louis-Jean, comme on le fait chaque lundi. Voilà le menu pour ce soir. C'est très rare que je donne un résultat d'un match de la Ligue nationale de hockey. Mais comme c'est le Martin Luther King Day aujourd'hui aux États-Unis, Il y a certaines autres années où il y avait plusieurs matchs présentés en après-midi. Cette année, il y en avait un seul. Les Red Wings ont perdu 6-3 face à l'Avalanche au Colorado. 3 points dans le match pour Kadri dans la victoire et pour Larkin dans la défaite. Il y a un autre match seulement, c'est celui entre la Floride et le Minnesota. C'est présenté à 20h ce soir. Sachez également qu'au niveau du tennis, Félix Auger-Aliassime débute son tournoi des internationaux d'Australie ce soir. Premier tournoi majeur de la saison. C'est présenté à 20h20. Félix va être confronté à un Letton du nom de Ernest Gulbis. C'est un ancien 10e joueur mondial qui est maintenant 256e. Donc, Félix est 20e favori du tournoi. Va jouer son match de premier tour ce soir, 20h20 à notre heure. Denis Shapovalov a perdu hier pour nous, mais déjà on était lundi en Australie, vous comprenez, avec le décalage horaire. Donc, Denis est éliminé. Félix va jouer ce soir. Bianca Andreescu est blessée. Elle a déclaré forfait pour la compétition de cette année. Et Eugénie Bouchard ne s'est pas qualifiée. Elle devait passer par le processus des qualifications. Et elle a échoué au dernier tour du tableau de qualification, donc elle ne jouera pas. Mais la jeune de 17 ans de Laval, Leila Annie Fernandez, ce sera une première présence dans un grand chelem pour elle. Elle a réussi à se qualifier pour le tableau principal.
On l'a eu! On a gagné, man! Tu te rends compte? On a gagné! C'est un feeling incroyable, plus beau moment de ma vie. On a des fans incroyables, on a une communauté incroyable qui nous supporte derrière le stade en ce moment, c'est incroyable. Puis je pense qu'on leur doit ça. On leur doit d'avoir tout donné sur le terrain pour tout leur support à travers les bonnes et les moins bonnes années. Puis on s'en va au Super Bowl maintenant pour défendre le titre, gagner le titre. Ça fait 6 ans que à chaque matin, je me lève en essayant de tout donner pour être le meilleur joueur de football possible, le meilleur athlète possible, le meilleur étudiant possible. Puis aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise d'enfin pouvoir essayer d'aller chercher ce titre-là, le plus gros événement de sport au monde. C'est incroyable, c'est un privilège. Je remercie tout le monde à Montréal, au Québec, au Canada pour votre support. Juste de sentir la vague d'énergie dans les bons comme dans les moins bons moments. C'est incroyable de ce positivisme-là, puis je pense que ça m'aide à mieux performer. Merci beaucoup tout le monde.
Le gars que vous venez d'entendre a 28 ans, mais ce que j'aime beaucoup dans son discours, c'est qu'il a l'air d'avoir 14. J'adore les athlètes qui sont démonstratifs et qui apprécient une victoire aussi importante que celle des Chiefs hier. Évidemment, vous avez reconnu Laurent Duvernay-Tardy. On fait un segment football à chaque lundi, des fois le vendredi aussi quand il y a des gros matchs avec Will. Will se joint à moi pour la prochaine discussion. Salut Will.
Salut mon Dan.
Et on a le bonheur de recevoir ce soir un très bon ami de Laurent Duvernay-Tardy qui était sur place hier à Kansas City. C'est son agent à qui on a déjà parlé quelques fois dans l'émission au cours des dernières années. Sacha Gavamy est au téléphone. Salut Sacha.
Salut, ça va bien?
Comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
Ça va très bien. Évidemment, comment ça va? C'est un peu absurde de te poser la question. J'imagine que tout va bien pour toi et pour ton ami Laurent Duvernay-Tardy. Sacha, je débuterai en te disant, j'ai l'impression que, oui, t'as travaillé très fort avec Laurent dans les dernières années, les négociations, le contrat, le suivi avec ses cours en médecine, mais j'ai l'impression que hier soir, peut-être juste hier soir, au lieu d'être l'agent, t'étais le chum de Laurent. Je me trompes-tu?
Ah non, tu te trompes pas. C'est exactement ça. C'est vivre ça, là. Tu sais, je veux pas, Laurent, il rentrait dans la NFL en 2014 via le repêchage. Et on rêvait à ce moment-là depuis, même avant qu'il soit repêché. C'est-à-dire, la journée qu'il soit dans le Super Bowl, la journée qu'il soit dans le Super Bowl, et de pouvoir être présent, là, hier, et de pouvoir vivre ça avec lui. J'étais vraiment, écoute, agent, on met ça de côté, là, c'était vraiment, on était des bons amis, des très, très, très bons amis depuis très longtemps, puis j'étais juste très content pour lui de vivre ça, puis de le voir réussir au plus haut niveau, puis d'avoir la chance de vivre un Super Bowl. Laurent a accompli beaucoup de choses, hein, pour un gars qui va avoir 29 ans dans quelques semaines, mais c'est le Super Bowl, il lui manquait, donc là, on va essayer d'aller chercher cette dernière victoire-là.
Sacha, toi qui le connais très bien, Laurent, à chaque fois qu'il jase, à chaque fois qu'il donne une entrevue, il a toujours l'air très calme. Est-ce que de le voir aussi expressif hier, c'était nouveau pour toi?
Non, ça c'est le côté de Laurent qu'on a peut-être moins tendance à voir, mais c'est vraiment lui ça. Laurent, c'est quelqu'un de très authentique, hein? On ne se le cachera pas, on commence à le connaître. Et il vit sa vie à 100 000 à l'heure, puis tout ce qu'il veut faire, tout ce qu'il fait, il le fait à 100 %. Donc, le football, je veux pas, c'est un sport qui est très exigeant. C'est des semaines de pratique ardues, c'est des matchs qui sont physiques, qui sont difficiles. Et pour lui, de pouvoir aller chercher la victoire comme ça et de gagner, d'être partant pour une équipe qui se rend sur le ball et de dominer comme il a dominé hier, c'est tout à son honneur et je pense qu'on a juste vu l'émotion sortir et c'est quelqu'un qui vit comme ça. Je l'ai vu dans certains moments, je l'ai vu au repêchage, je l'ai vu quand il est devenu partant, je l'ai vu quand on a signé le contrat. Dans les moments importants de notre carrière de football et en médecine aussi quand il a gradué, c'est là qu'on voit l'émotion sortir comme ça. Puis j'ai vu l'entrevue par la suite et c'était, disons, que j'étais très content. Je suis content que les gens du Québec ont pu voir ça aussi.
Tu étais présent au match hier, tu as probablement passé la soirée avec Laurent, vous avez festoyé après la rencontre, la victoire des Chiefs. Avez-vous été capable, Sacha, de prendre un pas de recul, puis réaliser tout le chemin que vous avez parcouru pour se rendre là, puis avoir maintenant ton ami, ton client qui va participer en tant que joueur partant au Super Bowl? Êtes-vous capable de prendre un pas de recul puis de le réaliser?
Ouais, je pense que tous les deux, on était un peu sous le choc hier avec tout ça. Mais oui, on est très conscient. Je pense qu'on essaie de se le rappeler souvent à quel point qu'on a fait du chemin depuis que ben lui à McGill, moi à l'Université de Montréal, on essaie de se lancer dans une aventure dans le football professionnel et que ça a porté jusqu'à maintenant on s'en va au Super Bowl. Mais c'est sûr que tu sais hier il y avait beaucoup de moments de joie et on se rappelait des moments puis on est super excités. En même temps, pour rester focus, le but ultime reste de gagner le Super Bowl. Et puis, je pense que les Chiefs ont une véritable chance. Ça va être un match très difficile. Mais déjà aujourd'hui, les gars étaient de retour à pratique aujourd'hui. Ils ont du temps normal. Ils partent à Miami en fait l'année prochaine. Donc, c'est définitivement des moments qui sont hauts en émotion. Mais c'est sûr qu'il faut prendre le temps d'apprécier tout le chemin parcouru parce que, honnêtement, ce parcours-là, il est même, je dirais, plus mémorable que les résultats en soi, si on peut le dire comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est le parcours en soi qui fait en sorte que tu apprécies tout ce qui suit par la suite. Donc, ouais.
Sacha, est-ce que tu réalises que Laurent, de toute façon, la manchette, je sais que tu es bien informé, là, mais je vais juste te résumer rapidement la manchette. Aux États-Unis, c'est les Chiefs contre les Niners au Super Bowl, puis au Québec, c'est Laurent Duvernay-Tardif au Super Bowl, OK? Ça c'est dans les 12 dernières heures, c'était ça la manchette. Est-ce que tu réalises que maintenant, l'espoir du Québec pour gagner le Super Bowl, c'est Laurent Duvernay-Tardif, dans le sens où Patrick Mahomes est un Américain? Il n'y a personne aux États-Unis qui dit « Yes, Mahomes s'en va au Super Bowl, on a une chance de gagner! » Alors que pour Laurent, qui est Québécois et qui a un parcours fascinant. Tout le monde l'admire pour la médecine qu'il a fait en parallèle de la NFL. On a l'impression que le 2 février prochain, le Québec sera représenté sur le terrain au Super Bowl. C'est pas rien, là.
C'est vraiment pas rien. Puis moi, je suis fébrile. J'ai hâte de voir à quel point qu'on va au Québec, on va être capable de se rallier derrière lui. J'étais content de voir hier. Laurent m'entend souvent à quel point il se sent choyé d'avoir le support du Québec et même du Canada. Dans tout ce qu'il fait, il sent vraiment un amour de la part des Québécois. Mais ultimement, hier, il l'a exprimé dans son entrevue, puis je disais à la blague à quelques personnes, je dis là, le Canadien est en congé. Je dis là, on va mettre à parler football 24h24, parce qu'on a l'équipe du Québec qui est au Super Bowl avec les Chiefs.
Ouais.
C'est ça qu'on veut voir et c'est le fun. Puis, j'ai même une pensée pour d'autres qui peuvent suivre éventuellement, un gars comme Anthony Auclair et tout. De voir la province qui se met derrière Laurent et qui va se ranger derrière lui, c'est fascinant. Puis moi, je pense que ça va être un deux semaines qui s'en vient mémorable et qu'on doit apprécier parce que c'est effectivement, on dirait que c'est nos Canadiens de Montréal, c'est notre équipe du Québec, mais c'est au niveau de la NFL, c'est le plus proche qu'on a jamais eu d'avoir une équipe de la NFL à Montréal ou au Québec, disons, représentée au Super Bowl.
OK, juste là-dessus, Laurent, pas Laurent, mais Sacha, tu parles des entrevues des prochaines semaines. Est-ce que je comprends qu'à longueur d'année, tu donnes un coup de main à Laurent pour les entrevues, mais qu'à partir de maintenant, c'est les Chiefs qui se prennent en charge, étant donné que vous allez au Super Bowl?
Ça va continuer de mon côté aussi, mais à partir de leur arrivée à Miami, toute l'horaire est minutieux. Il va y avoir une journée média, la fameuse journée média de la NFL. On s'entend que la NFL, le Super Bowl est probablement l'événement le plus médiatisé au monde. Hein. Il y en a probablement l'événement sportif le plus gros au monde. Donc, ça va être assez chargé comme horaire. Mais c'est sûr que l'équipe a encore beaucoup ça parce que les demandes vont venir de partout sur la planète. Et je m'attends à ce qu'avec l'histoire de Laurent et avec tout ce qu'il a accompli, ben, les médias internationaux vont commencer à lire un peu là-dessus puis vouloir couvrir cette histoire-là. Donc, ça va être le fun de voir un peu du Québec avoir cet exposé, pardonnez-moi l'anglicisme, sur la scène internationale.
J'aimerais revenir au match d'hier, si tu veux bien, Sacha. T'es un agent, mais aussi un fan de foot, un fan de sport. De te retrouver là, au Arrowhead Stadium, de voir en direct la superbe course de Pat Mahomes à la fin de la première demi, de le vivre sur place, ton ami sur le terrain. On passe par quelle gamme d'émotions durant le match?
Tu penses, Will, tu penses, honnêtement. C'est ça que tu fais. Tu penses, parce que tu réalises même pas comment c'est possible d'être dans cette position-là. Et c'est assez haut en émotion, hein. Je te cacherai pas que la journée d'hier a été sur le niveau émotif, une journée, disons, en montagne russe pour moi. Mais c'est surtout du bonheur. Pour résumer, là, c'est du bonheur de pouvoir vivre une expérience de la sorte et de pouvoir, être présent dans un des matchs les plus importants de la carrière de ton, d'un de tes meilleurs amis, de ton premier client, et d'avoir réussi. Dès l'année passée, les Chiefs sont passés à un jeu de se rendre en Super Bowl, mais Laurent était blessé. Là, de se rendre alors qu'il joue, c'est encore, tu sais, c'est extraordinaire. Donc, moi, je suis fan de foot, puis d'être présent, voir Mahomes à l'œuvre en personne, voir comment, à quel point il est fascinant, il est impressionnant. Puis de voir un de tes meilleurs chums réussir, ça n'a pas de prix.
C'est aussi l'agent de Ryan Hunter, un autre francophone qui joue pour les Chiefs, un franco-ontarien. Quand tu as décidé de te lancer là-dedans, devenir agent de joueur, je me trompe pas, aux alentours de 2013-2014, Sacha, est-ce que dans tes rêves les plus fous, tu pouvais croire un jour, quelques années plus tard, que tu allais avoir deux clients au prestigieux Super Bowl?
Écoute, non. Pas que je croyais pas en mes moyens, j'ai toujours grand mes moyens, j'ai toujours grande confiance. Est-ce que tu m'avais dit un jour j'aurais eu deux clients sur rôle dans ma vie? Oui, peut-être, mais à 28 ans, non. De pouvoir le vivre aussitôt, je suis très reconnaissant et je me sens choyé. Et c'est surtout ça. Puis de voir pas du tout avec des joueurs, c'est bien deux joueurs au Super Bowl, mais c'est deux excellentes personnes. On regarde un gars comme Ryan, il est moins connu au Québec, mais c'est un gars qui travaille très, très fort, un franco-ontarien, très fier de ce qu'il vient. Vous l'avez déjà entrevu, d'ailleurs, à votre station. Puis c'est quelqu'un qui travaille tellement fort. Il est passé par l'équipe de pratique l'année passée. Il a été admis cette année. Il a joué un peu. Là, il est encore une fois dans l'alignement du 53 après avoir fait un peu d'équipe de pratique. Donc, c'est vraiment une belle occasion pour lui de vivre cette expérience-là et de le vivre à fond. Donc, je me sens très choyé et très privilégié de faire ce que je fais et j'en suis reconnaissant tous les jours parce que le sport professionnel, c'est très fragile et tu sais pas pour combien de temps ça peut durer, mais ça fait d'en profiter pour à chaque instant.
Sacha, en temps réel, pendant qu'on fait l'entrevue avec toi, les auditeurs nous envoient des questions et un auditeur veut savoir comment ça fonctionne les bonis ou les salaires aux joueurs. On sait que dans la Ligue nationale de hockey, quand on arrive en série, les joueurs sont pas payés, sont payés seulement en saison régulière. Il y a des bonis d'équipe rattachés aux performances. Comment fonctionnent les salaires des joueurs de la NFL en série?
C'est une excellente question. En fait, c'est régi par la convention collective. Donc, à chaque match que tu joues en série, c'est prévu dans la convention collective quelle sera la rémunération des joueurs. Donc, quand tu joues, exemple, le Wild Card Game, il y a tant de montants. Si tu joues le Division Game, il y a tant de montants. Si tu joues le Championship Game, il y a tant de montants. Et si tu joues la finale du Super Bowl, il y a tel montant. Et si tu gagnes le Super Bowl, il y a un montant supplémentaire.
Okay.
C'est régi par la convention collective. C'est le même montant pour tous les joueurs.
OK. Est-ce que toi, dans le contrat de Laurent, si jamais les Chiefs gagnent le Super Bowl, il y a un montant personnel que lui va recevoir en plus?
Non, je peux pas faire ça dans
okay.
la NFL.
OK, parfait,
ça
je comprends.
Pas. Non,
okay.
non.
C'est
non.
seulement des bonus d'équipe, puis c'est toujours
c'est
les
ça.
Mêmes bonus, pas année après année, peut-être que ça monte avec l'inflation ou avec votre convention, mais c'est toujours les mêmes montants pour tous les joueurs.
Exactement. La convention prévoit, sur la durée de la convention collective, quels seront les montants par année.
Parfait.
Donc, c'est prévu.
Okay. Oui. OK. Je comprends très bien. Bon. Les deux prochaines semaines de Sacha Gavamy, ça ressemble à quoi? Puis les deux prochaines semaines de Laurent Duvernay-Tardy, ça ressemble à quoi?
Je vais commencer avec Laurent. Semaine normale cette semaine, c'est-à-dire semaine de pratique régulière, pas de changement. En fin de semaine, ils vont quitter pour Miami. Et là, ça va être des pratiques à combiner avec les journées médias, les engagements avec le Super Bowl. Donc, cette semaine, c'est le travail comme d'habitude. La semaine prochaine, ça va être une semaine régulière, sauf vont avoir les obligations médiatiques et autres avec le Super Bowl. Ils vont être dans une autre ville que Kansas City. De mon côté, moi, cette semaine, c'est beaucoup de gestion au niveau de salaire de rien, mais toutes les demandes d'entrevue. On a aussi plein d'engagements qu'on doit repousser ou qu'on doit juste réorganiser en fonction de le fait que la saison va se terminer en février au lieu de janvier. Et donc, de tout coordonner ça, coordonner les invités de Laurent pour le Super Bowl, coordonner les différents l'hébergement, autant des petites choses que des grandes choses. Honnêtement, là, ça varie beaucoup, dépendamment de qu'est-ce que tu fais. Et je vais quitter pour le Miami fin de semaine prochaine, à mon avis. Là, j'ai pas encore booké tous mes vols, mais ça va ressembler à ça.
OK. Les parents, la blonde, l'entourage de Laurent, c'est toi qui gères ça ou c'est les Chiefs?
Ah, c'est moi ça. C'est okay. Tout moi qui gère ça, oui. Okay. Exactement.
OK, parfait. Fait que, un peu comme hier, tu vas avoir du travail un peu avant le match, mais au match comme tel, tu vas redevenir l'ami au lieu d'être l'agent.
Exactement. Puis après le match, je vais gérer toutes vos demandes d'entrevue, puis tout ça avec plaisir, parce que si on gagne, ça va me faire plus que plaisir de tout gérer ça. Ça va être de toute beauté.
On a toujours eu une excellente collaboration avec toi, puis on te remercie d'avance. Mais je parle pas du Super Bowl, je parle d'aujourd'hui, puis de toutes les autres fois où Will et moi, on a voulu te contacter. C'est toujours apprécié.
Mais vous êtes confiant?
Ça fait toujours plaisir.
Vous êtes confiant pour le Super Bowl, là, Sacha? Puis c'est un gros défi pour Laurent et sa gang devant le gros front défensif des Niners. Je pense qu'en tant que fan de football, on va avoir un spectacle incroyable, mais ça a été quoi les premiers commentaires de Laurent, sachant qu'ils vont affronter maintenant les Niners?
Ouais, on était au souper hier, puis on regardait pas le match. Il m'a demandé de vérifier le score, et on a vu que les Niners avaient nettement le dessus. Et la réaction de Laurent était pour être le meilleur, faut que tu joues contre les meilleurs. La ligne défensive des 49ers est probablement la meilleure ligne défensive de toute la ligue. Ça va vraiment être un match, à mon avis, hallucinant. Là. On va avoir une ligne défensive extraordinaire qui va affronter une des meilleures lignes à l'attaque de la NFL. Bon, Patrick Mahomes contre la défensive des 49ers. On va avoir George Kittle contre Travis Kelce. On va avoir Tyreek Hill contre Richard Sherman. Écoutez, là, on parle du grand, c'est du gros football qui va jouer dans deux semaines à Miami et je pense que ça va vraiment être un match enlevant. Je m'attends que ce soit un match très serré. C'est deux équipes qui sont très bien coachées. On a des colonnes défensives des 49ers qui, à mon avis, auraient dû être candidats pour être entraîneur-chef contre l'attaque d'Andy Reid. Donc, je m'attends vraiment à un bon match, un match serré. Moi, j'ai confiance que les Chiefs peuvent l'emporter, mais bon, c'est deux très bonnes équipes qui s'affrontent.
Mais oui. Dernière question que j'ai pour toi, Sacha. T'as parlé de Hill, de Kelce, de Mahomes. Évidemment, ils sont pas là depuis 50 ans, mais pour les Chiefs, c'est une première participation au Super Bowl depuis 50 ans. Quand t'as parlé à la fin du match, quand t'as entendu le coach, t'as parlé avec des partisans, des membres de l'organisation, as-tu l'impression qu'il y avait un soupir de soulagement dans la ville de Kansas City hier?
Oui, je l'ai senti avant même le match. La ville était fébrile. On dirait qu'on leur enlevait un poids sur les épaules de voir l'équipe se rendre, avoir une chance de se rendre au Super Bowl. Et on sentait la nervosité quand les Titans ont mené 10-0 et 7-7.
Oui.
Mais après ça, Patrick Mahomes a fait ce qu'il faisait de mieux depuis le début de sa carrière. Il a pris les choses en main. Et puis c'était vraiment une joie, une extase, un soulagement. C'était vraiment tous les sentiments mis ensemble, là, je dirais que c'était là, mais surtout soulagement, je pense, de voir que leur équipe allait se rendre au Super Bowl et qu'elle avait une chance de compétitionner pour le titre, parce qu'ils sont passés tellement près l'année passée de se rendre, mais ça a été, il y en a manqué de plus. Donc, d'avoir cette chance-là, c'est très bien.
Parfait. Sacha Gavamy, agent et ami de Laurent Duvernay-Tardy, un gros merci de nous avoir parlé ce soir.
Merci beaucoup.
Merci, ça marche. Merci à vous.
Salut bien. C'est fascinant. Fascinant de voir l'histoire de ces deux jeunes.
Inspirant,
Will.
Dan.
Ça, c'est inspirant. Je dis fascinant, mais inspirant est tout aussi bon. Tout aussi approprié. C'est deux chums qui sont lancés dans l'aventure de la NFL et qui se retrouvent au Super Bowl.
Wow.
c'est difficile de demander mieux que ça. Un mot sur Laurent. Et ensuite, on va faire une pause. Sylvain dirait une courte pause, mais on va faire une pause. Et au retour, on va décortiquer en termes de football un peu plus les deux matchs auxquels on a assisté hier.
Juste pour te dire, Dan, le parcours de ces deux gars-là, parce que Sacha est partie prenante du parcours de Laurent Duvernay-Tardif. Il a vraiment aidé son ami à pouvoir avoir une chance de percer la NFL. Alors, atteindre la NFL, c'était un objectif. Check, on a fait le petit crochet. Par la suite, être repêché, c'est un autre objectif. Check.
Oui.
Être partant, c'est un autre objectif. Laurent est devenu partant à sa troisième saison à Kansas City.
OK.
Maintenant, il est, un joueur très important de la ligne offensive des Chiefs. Et là, un autre check, participation au Super Bowl. C'est vraiment inspirant, Dan. Puis trois petites choses pour terminer sur le rang. Moi, je suis content pour lui. Première chose, je suis content pour le bonhomme. Il a travaillé fort pour pouvoir atteindre le Super Bowl. C'est un joueur très important, comme je t'ai dit, de la ligne offensive des Chiefs pour son entourage, Sacha et compagnie. Deuxième chose où je suis content, Dan, de la participation de LDT au Super Bowl. Tous les jeunes footballeurs québécois ont maintenant un modèle pour y croire.
Très bon point.
Et de jouer au football ici, au Québec, ce que Laurent a fait au cégep et à l'université, pour par la suite jouer dans la NFL et maintenant participer au Super Bowl. Alors maintenant, pour tous les jeunes footballeurs québécois, c'est possible d'y croire parce qu'un Québécois le fait. Mm-hmm. Et troisième chose, je suis content parce que ça va créer un buzz au Québec, la participation de Laurent au Super Bowl. Puis j'ai l'impression que bien des gens qui regardaient peut-être pas le Super Bowl dans les dernières années, qui ne sont peut-être pas des grands fans de football, vont embarquer là-dedans. Il y a une popularité, j'ai l'impression, qui sera grandissante avec la participation de Laurent au Super Bowl ici au Québec. Alors, c'est juste du positif.
Très intéressant ce que tu ajoutes. Et Will, tu sais, c'est quoi la radio en direct? C'est que des fois, ça nous arrive de changer d'idée. Donc, on ne fera pas de pause. On analyse à l'instant les deux finales de conférence ensemble. D'abord, je veux que tu me donnes ton appréciation de ton dimanche. Est-ce que, bien que t'as le football à cœur, t'as hâte à ces matchs-là. Est-ce que je trouve sévère de dire qu'hier, on peut avoir été déçu du spectacle?
Non, parce que c'est mon cas, Dan.
OK.
Moi, j'ai été déçu quand
même. Je pensais pas que toi, t'allais me dire ça. Tu sais, que moi, je dis ça, tu pourrais me dire, là, Dan, hein, c'est parce que t'as des affaires que t'as pas vues, tu connais pas telle affaire, mais que toi, tu dises que t'as été déçu, ça me surprend un peu.
Ben, je voyais les Chiefs et les Niners l'emporter. On en avait d'ailleurs discuté vendredi, puis j'ai vraiment hâte dans deux semaines. J'ai l'impression qu'on va avoir un extraordinaire Super Bowl. Ça fait longtemps que j'ai été aussi excité pour un Super Bowl.
Okay.
Mais par contre, si on revient au match d'hier, on n'a pas eu des grands spectacles. Dans les deux cas, on a eu une demi entre les Titans et les Chiefs et on n'a pas eu de match entre les Packers et les 49ers. Et Dan, je suis déçu parce que je suis convaincu que les Ravens auraient donné une meilleure opposition aux Chiefs et que les Seahawks nous auraient donné un meilleur spectacle contre les 49ers.
Ça s'est joué la semaine précédente.
Les Titans et les Packers méritaient leur place. Ils avaient gagné la semaine précédente.
Okay.
Mais tout de même, je suis convaincu que les Ravens et les Seahawks nous auraient donné un meilleur spectacle contre les deux équipes gagnantes hier.
OK, les Titans et les Chiefs. Les Titans ont pris les devants à la première demi. Qu'est-ce qui a fait défaut pour les Titans? Et comment les Chiefs ont pu revenir puis gagner ce match-là?
Ben, les Titans, c'est jouer du football de rattrapage, où tu as l'obligation de faire des passes, lever le ballon dans les airs, et les Titans ne sont pas une équipe capable de jouer de la sorte.
Okay.
On est loin de Lamar Jackson, on est loin des Chiefs. Alors, on a joué de façon parfaite en première demi du côté des Titans. On a pris rapidement les devants dans le match, on a établi notre jeu au sol, mais rapidement, on n'a pas été capable en défensive de stopper le mutant Patrick Mahomes.
Okay.
Et quand les Chiefs ont pris leur air d'aller, c'était terminé. Et surtout, les Chiefs, maintenant, ils ont une défensive. Puis c'est ce qui faisait défaut dans les dernières années à Kansas City. Puis c'est pour ça qu'on participe au Super Bowl cette année. Parce qu'on s'est trouvé une identité défensive. Frank Clark, Tyrann Mathieu, des joueurs d'impact, c'est devenu des joueurs très importants pour les Chiefs, en défensive particulièrement. Donc, les Titans, ils n'ont pas été capables de jouer du football de rattrapage. Et quand le monstre Derrick Henry se fait arrêter à la ligne de mêlée, comme ça a été le cas par le front défensif des Chiefs, ben, on n'est pas capable de bouger le ballon. Puis, bon, est-ce qu'on était à court de munitions, de talent? Convaincu que oui, parce que comme j'ai été dit tantôt, les Ravens auraient offert une meilleure opposition aux Chiefs.
OK. Évidemment, on va s'en reparler à l'approche du Super Bowl, mais en date d'aujourd'hui, je te dirais qu'il y a un petit danger, c'est que tout le Québec souhaite la victoire des Chiefs, mais oublie d'analyser l'équipe des Niners.
Exact.
Tu viens de vanter la défensive des Chiefs. Elle n'est pas aussi bonne que la défensive des Niners.
Ben non. C'est la meilleure de la NFL.
C'est un peu ça le piège.
Oui, tout à fait. Mais imagine déjà le duel, Dan. On aura le temps de s'en reparler. Là.
L'attaque des Chiefs contre la défensive des Niners.
Wow.
C'est ça le duel du Super Bowl?
Ben oui, complètement.
Okay. En date d'aujourd'hui, Will...
C'est deux Goliaths.
Juste pour te dire, à Vegas, on favorise les Chiefs par un point et demi. Et ça a le temps de changer, mais c'est rare que ça change tant que ça. C'est pour démontrer à quel point c'est serré.
Oui, et pourtant, le bon vieux dicton dit que les défensives gagnent des championnats.
C'est vrai?
Hein? Et pourquoi les Niners ne sont pas favoris. Alors, j'ai hâte à ce duel-là, Dan. Je suis excité juste d'en parler puis de voir qui, entre le front défensif et Mahomes, va avoir le dessus.
Quand j'ai regardé la deuxième finale de conférence, en toute honnêteté, pas très longtemps, quand c'est venu 17-0, j'ai tout arrêté ça. Je me suis souvenu que toi et Dan Fleury, vous aviez dit vendredi, les Packers, finalement, ils n'étaient pas de taille dans les finales de conférence.
Non, c'est dommage. Ils n'étaient pas de calibre du tout.
Okay.
Et Aaron Rodgers, dès le début de la rencontre, sentait la pression venir, puis il a compris que le match allait être très difficile. Puis malheureusement, je suis un grand fan d'Aaron Rodgers.
Oui.
Il est spectaculaire sur le terrain. C'est un des joueurs qui a les passes les plus précises dans l'histoire de la NFL. Tu sais, dans le bullseye, là, souvent, Dan, il les a directement là, dans les mains de ses receveurs. Par contre, depuis le début de sa carrière, il est un leader négatif, Aaron Rodgers.
Uh-huh.
Et quand les choses se sont mises à mal marcher dès le début de la rencontre,
okay,
on le voyait sur le banc, assis, très désemparé. Il n'y a pas l'attitude du vainqueur de vouloir revenir dans le match. C'est pas un gars comme Patrick Mahomes qui va regrouper son équipe à 24-0 sur les lignes de côté, motiver ses joueurs pour leur dire « Hey, suivez-moi, puis on s'en va dans cette direction-là. » C'est malheureux, c'est un bon joueur de foot. Il est peut-être un peu mal entouré avec les Packers. Il n'y a pas les mêmes munitions que Mahomes a à sa disposition, mais... Aaron Rodgers, hier, quand il a échappé le ballon au deuxième quart, entre autres sur la remise, j'ai fait sérieux, là. Tu te prétends être un des meilleurs carrières de l'histoire de cette ligue, il t'échappe le ballon. Il est trop souvent qu'autrement un leader négatif, okay, Aaron Rodgers, puis ça a paru hier pour les Packers.
OK, le porteur de ballon des Niners, Raheem Mostert.
Wow!
220 verges au sol, deuxième meilleure performance de l'histoire pour un match des séries. Est-ce qu'il a été aussi bon hier parce que la défensive des Packers n'était pas de taille, parce que c'est de loin le match de sa vie?
Ben oui, complètement. 220 verges, 4 touchés, c'est incroyable. Un peu des deux. Et surtout, la ligne offensive des Niners a complètement dominé le front et la ligne défensive des Packers. Mais, tu sais, Garoppolo, le carrière des Niners, a tenté 8 passes dans toute la rencontre. C'est parce que notre jeu au sol fonctionnait, puis on n'avait pas besoin de passer le ballon pour avancer dans nos séquences offensives. Alors, le jeu au sol des Niners, c'est probablement la meilleure attaque terrestre de la NFL. Ils nous l'ont prouvé hier, parce qu'ils ont 5 gros bonhommes capables de bloquer. Et surtout, hier, ça a été l'affaire de Mostert. Mais la semaine précédente, contre les Vikings, c'était Tevin Coleman qui avait récolté 2 touchés, 100 de verges. On a un monstre à 3 têtes, et ça, c'est très défensif, c'est très dur pour les défensives adverses parce que tu sais pas trop quel porteur de ballon va être dans le champ arrière. Il y en a qui courent en vitesse, il y en a qui courent un peu plus en finesse, l'autre est plus physique.
Okay.
C'est dur de s'ajuster contre des différents porteurs de ballon. Puis la défensive des Packers s'est fait complètement dominer hier. Mostert, quelle belle histoire. C'est un gars qui n'a pas été repêché.
Okay.
Il a été retranché 7 fois dans la NFL par 6 équipes différentes.
Okay.
Il a réussi à faire sa niche avec les 49ers. Cette année, c'est de loin sa meilleure campagne dans la NFL. Puis là, il réalise la deuxième plus grande performance pour un porteur de ballon dans l'histoire des éliminatoires de cette ligue. Puis c'est un gars qui était un surfeur professionnel,
okay,
qui jouait au football en même temps à l'université.
Okay.
Il s'est dédié à temps plein au football. Comme je te dis, retranché tout plein de fois dans cette ligue. Il a trouvé sa niche et là, il en profite. Et d'ailleurs, j'ai mentionné hier après la rencontre, Dan, que lui, avant ses matchs, pour se motiver, il regarde le calendrier et il note les dates où il a été retranché par les autres équipes de la NFL.
Ça, c'est sa motivation.
Exact.
OK.
Ouais, puis il se prépare comme ça avant les matchs.
Wow.
Mostert va être un joueur très important pour les Niners dans 2 semaines contre les Chiefs.
Un gros merci, Will.
Merci à toi.
Ça fait 6 ans que à chaque matin, je me lève en essayant de tout donner pour être le meilleur joueur de football possible, le meilleur athlète possible, le meilleur étudiant possible. Puis aujourd'hui, ben, ce rêve qui se réalise d'enfin pouvoir essayer d'aller chercher ce titre-là. Le plus gros événement de sport au monde, c'est incroyable, c'est un privilège. Je remercie tout le monde à Montréal, au Québec, au Canada pour votre support. Juste de sentir la vague d'énergie dans les bons comme dans les moins bons moments, c'est incroyable tout ce positivisme-là, puis je pense que ça m'aide à mieux performer. Merci beaucoup tout le monde.
Au FM 93,
ready?
L'avant-match.
De retour après la pause.
Vous avez besoin de pièces pour votre voiture? Pièces d'auto économique vous offre toutes les grandes marques nationales au meilleur prix. Pourquoi payer trop cher ailleurs? Pièces d'auto économique, c'est maintenant 5 magasins, dont un tout nouveau à Saint-Georges et une boutique en ligne à pièceséconomique.com.
Cet hiver, pour que la fête continue, le 47 vous offre ses réputés tartares à 20$, incluant l'apéro.
Un apéro et un tartare pour 20$. Wow!
Jusqu'au 8 février, c'est la promo tartare au restaurant Le 47, voire le47.com.
Pour votre prochaine escapade de motoneige, on vous déroule le tapis blanc dans la région du Bas-Saint-Laurent. Le Bas-Saint-Laurent est renommé partout dans le monde grâce à sa neige abondante et l'entretien des sentiers. Les paysages sont spectaculaires. Vallons forestiers dans une nature intacte et l'immensité du fleuve. Profitez des nombreux services à Rivière-du-Loup et à Rimouski et partez à la conquête du Bas-Saint-Laurent. Pour planifier votre itinéraire, visitez motoneigebsl.ca. Le Bas-Saint-Laurent, réserve mondiale de bon temps.
Humanité, c'est un milieu de vie unique pour aînés atteints de troubles de la mémoire. Un environnement exceptionnel, inspiré des meilleures pratiques mondiales et offrant une qualité de vie sans précédent. Humanité, c'est 12 maisonnées personnalisées où les résidents participent à la vie communautaire. C'est 36 salles thématiques où ils peuvent s'adonner à leur passion. C'est des employés, des bénévoles, des parents et des amis qui s'allient pour leur bien-être. Un milieu de vie unique pour aînés atteints de troubles de la mémoire. Humanité.ca.
Vous aimez le hockey en levant de jeudi à dimanche. Assistez à la 30e édition du tournoi Bantam B Côte-de-Beaupré. Les équipes venant de partout au Québec sauteront sur la glace et se disputeront les honneurs. Leur but ultime, devenir la meilleure équipe Bantam B de la province. Une ambiance électrisante, de l'énergie à revendre et des joueurs qui jouent le tout pour le tout. De jeudi à dimanche, ne manquez pas la 30e édition du tournoi Bantam B à l'Arena Côte-de-Beaupré. Une invitation du FM 93.
Garde, le stationnement parfait. Distance égale à gauche puis à droite. Je devrais partager ça. Hashtag stationnement parfait.
Ou hashtag système d'assistance active au stationnement perfectionné.
Hashtag chute.
Procurez-vous le VUS construit pour vous faciliter la vie. Le Ford Escape avec le système d'assistance active au stationnement offert en option. Durant l'événement de fin d'année de Ford, obtenez jusqu'à 6 000 de rabais sur les Escape 9 2019 sélectionnés, mais seulement jusqu'au 31 janvier. Visitez votre détaillant Ford ou Ford.ca.
Chez Vidéotron, c'est le temps d'économiser. Obtenez deux lignes mobiles gratuites lorsque vous vous abonnez à deux forfaits Zen et à un accès Internet. Des conditions s'appliquent. Vidéotron.
Vous, les parents dévoués qui avez bâti une patinoire dans la cour et qui se lèvent à 5 heures du matin pour l'arroser afin que vos enfants s'amusent, vous méritez toute mon admiration. Et vous méritez...
l'escouade boum!
Inscrivez-vous sur fm93.com ou sur Facebook et montrez-moi votre installation. Quatre familles vont me recevoir chez eux, les bras chargés de cadeaux, avec la bouffe de quesada et les rafraîchissements de la batte. Et le gros fun, c'est qu'on va jouer une partie sur votre patinoire.
L'escouade!
Une collaboration de Budweiser, l'entrepôt du hockey, Quesada et du FM 93.
FM 93, promo, concours. Le 93 pourrait faire de vous un gagnant.
La finale du football américain, c'est chez vous que ça se passe. Gérez vos amis, la télé et les divans. Moi, je m'occupe de la Resto Pizza. Rendez-vous sur fm93.com et répondez au baromètre Resto Pizza. Vous pourriez gagner votre party pizza, c'est-à-dire 10 succulentes pizzas Resto Pizza.
Restez branchés au FM 93 pour votre chance de gagner.
Nouvelle année, nouveau propriétaire, nouvel inventaire. Tous les 2019 doivent partir chez Tige Chevrolet Buick GMC Cadillac. Sautez sur l'occasion et repartez à bord de Buick encore neuf 2019 à partir de 0% de financement sur 84 mois. Plus 1 000 $ de rabais, plus les pneus d'hiver gratuits. Ou encore, profitez de rabais jusqu'à 10 000 $ sur les Sierra Élévation 2019, aussi à 0%. Détail, chez Tige Chevrolet Buick GMC Cadillac. Autrefois Fournier Chevrolet sur Marais. Fier concessionnaire du groupe Tige.
Votre vision de lecture vous donne-t-elle du fil à retordre? Zoomez-vous le texte de votre cellulaire pour mieux voir vos textos? Grâce à la presbyvision de LASIK-MD, ces inconvénients peuvent être enfin chose du passé. Cette intervention est conçue pour traiter non seulement la baisse de la vision de lecture, mais aussi la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme pour vous permettre de voir de près, de loin et de partout, sans lunettes de lecture ni verre de contact. Réservez votre consultation gratuite et sans obligation dès aujourd'hui à lasikmd.com et économisez jusqu'à 20% sur votre intervention.
La consommation de cannabis comporte des risques. Si vous choisissez d'en faire usage, privilégiez des produits à faible teneur en THC, rangez toujours ces produits en lieu sûr, et si vous ingérez des produits comestibles, commencez par de petites doses et attendez avant d'en reprendre, puisque l'effet tarde à se faire sentir et dure plus longtemps. Rappelons que seule la Société québécoise du cannabis est autorisée à vendre des produits de cannabis non médical au Québec. Pas de risque à prendre. Informez-vous québec.ca/cannabis. Un message du gouvernement du Québec.
L'avant-match. C'est le sport local, provincial, national, international, interplanétaire. Sous toutes ses facettes.
Dans quelques instants, on parle avec Louis-Jean, qui on parle chaque lundi dans l'émission. Deux, trois petites nouvelles de hockey de la Ligue nationale avant d'aller parler avec lui. D'abord, l'Avalanche du Colorado a défait les Red Wings cet après-midi 6-3. Trois points dans le match pour Dylan Larkin dans la défaite. Trois points dans le match également pour Nazem Kadri dans la victoire. Deux passes pour l'excellent Kyle Makar, le défenseur, qui est en lutte pour gagner le trophée Calder dans la Ligue nationale de hockey. Et il y a un autre match chez Floride qui joue au Minnesota. Columbus m'impressionne. 60 points de classement sans Panarin et Bobrovski. C'est tout à leur honneur. Les Blue Jackets bataillent pour une place en série. J'avais pas vu ça venir en toute honnêteté. Patrick Kane est devenu l'Américain le plus jeune à amasser 1000 points dans la Ligue nationale. Il est aussi le 90e à réussir l'exploit d'avoir 1000 points à son actif. C'est un excellent joueur de hockey, Patrick Kane, le numéro 88 des Blackhawks de Chicago. Justin Williams a l'habitude de faire les choses en grand. On le surnomme Monsieur Septième Match pour ses exploits dans les septièmes matchs des séries. Mais hier, à son premier match de la saison, parce qu'il avait pris une sabbatique ou une pré-retraite, ben Justin Williams a marqué au 8e tour des tirs de barrage pour aider les Hurricanes à l'emporter 2-1. Et ça se passait à domicile devant les partisans des Hurricanes à Raleigh en Caroline. Donc, les gens étaient bien contents de le revoir. Et Sidney Crosby a 8 points en 4 matchs depuis son retour au jeu.
L'avant-match.
Dans l'avant-match,
voici
Louis-Jean.
Monsieur Louis, comment ça va?
Ben, man, ça va très bien. Et toi, mon cher?
Ça va très bien, merci. J'ai une interrogation et une question. Tu veux qu'on commence par quoi?
Allons-y avec l'interrogation.
Comment m'expliques-tu que les partisans du Centre Bell ont hué samedi soir Max Pacioretty?
Écoute, c'est le genre de choses qu'on voit régulièrement. Je veux dire, mais en même temps, c'est décevant. Si tu me poses la question, je trouve ça décevant de voir un gars qui a tellement fait. Il a marqué, écoute, combien de saisons? C'est 6 saisons de 30 buts ou plus avec le Canadien. Il a cogné la porte des 40 buts. Alors ça, c'est le genre de choses. Je sais pas, je me posais la question, est-ce que c'est parce que les gens doutent de sa sincérité quand il disait qu'il voulait demeurer à Montréal? Je sais pas, j'ai de la misère à l'expliquer, mais combien de fois on voit ça? Comment expliquer pourquoi qu'on huerait un gars comme, par exemple, Sidney Crosby? Tu vas me dire, bon, il a jamais joué à Montréal.
Ouais, c'est ça.
Mais tu sais, des légendes comme ça, je le comprends pas. Je peux comprendre Zdeno Chara. Il y a un peu plus de difficulté à comprendre un joueur comme Sidney Crosby.
Ouais, puis Max Pacioretty, ça avait été le cas avec bien d'autres Canadiens qui ont pris la route, qui n'ont pas pris la route, mais qui ont quitté Montréal. Souviens-toi, Louis, à l'époque où Daniel Brière avait une décision à prendre puis il avait choisi les Flyers, après ça, il est venu jouer pour le Canadien, mais quand il a pris la décision de quitter Buffalo pour aller jouer à Philadelphie, le premier match que je jouais avec les Flyers au Centre Bell, les gens l'ont hué parce qu'ils se disaient « Colin, il aurait pu venir ici, puis il n'est pas venu. » Lui, il a écrit
chaud. Mais ça, je le comprends. Ça, il y a une logique.
Oui.
Dans le cas de Max, la seule chose que je me dis, et là, je suis complètement probablement dans le champ, je ne sais pas, je peux pas me mettre dans la peau des partisans, mais je me suis dit, lui, il a dit, et à haut et fort, tout l'été, et la saison dernière, là, avant qu'il soit échangé, il disait « Moi, je suis le capitaine et c'est un honneur pour moi d'être ici à Montréal. Je veux rester ici, je veux compléter ma carrière ici, tout ça. » Et là, qu'est-ce qu'on entend quand il quitte? On entend que, clairement, ça chauffait entre lui et le directeur général, mais que finalement, il voulait quitter Montréal. Alors, qui dirait? Honnêtement, je peux vraiment complètement comprendre Max Pacioretty parce qu'il se donnait cœur et âme pour cette organisation-là. Même à un moment donné, je pense que peut-être qu'on le pointait du doigt, peut-être qu'il avait l'impression qu'il se donnait, puis que malgré tout, on n'appréciait pas ou on l'entourait pas bien. De toute façon, c'était devenu quelque chose, une situation qui était plus tenable. Il fallait absolument, je pense, agir. Et honnêtement, à froid, quand on regarde la transaction, Suzuki, Tatar, choix de deuxième ronde, le Canadien a quand même très bien fait. Puis j'ai parlé avec George McPhee, le président de l'équipe qui était le DG à l'époque des Golden Knights. Oui. J'y ai parlé, lui, samedi, ou en fait vendredi, le jour avant le match.
Oui.
Et lui, il me disait, écoute, moi, je trouve que la transaction, j'analyse et je vois ce que les deux autres font, mais elle est bonne pour les deux équipes.
Oui.
Moi, ce que j'aime, des grosses équipes, je suis un petit joueur, je sais c'est quoi aller dans le coin, puis d'aller sortir la rondelle, c'est pas facile. Moi, j'apprécie, je préconise une équipe plus grosse, plus physique, et lui, il cadre dans exactement ce qu'on avait de besoin.
C'est rare qu'on dise ça d'une transaction, mais dans ce cas-ci, je pense sincèrement que la transaction est excellente pour les deux équipes. Mais je pense juste qu'à Montréal, les gens trippent sur leur équipe. Quand t'es dans leur équipe, ça va bien. Puis quand t'es plus dans leur équipe, ben là, on se permet de te crier chou. Mais j'ai de la misère avec commentaires d'auditeurs, Louis, sur les réseaux sociaux qui disent « Ah, là, les gens payent 200-300$, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. » Non. Moi, je suis pas d'accord avec cette théorie-là. Ils peuvent s'amuser, ils peuvent prendre des hot dogs, mais ça m'est déjà arrivé d'aller au Centre Bell puis prendre des hot dogs, puis prendre une petite bière des fois. Mais de crier chou à un gars qui a joué dans ton équipe, j'ai de la misère à me l'expliquer, mais c'est pas grave. Même si on en parlait jusqu'à minuit, je pense qu'on trouverait pas la réponse.
Mais moi, là-dessus, par contre, je pense que quand tu payes, par exemple, un tri comme celui-là, je peux comprendre. Selon moi, tu as le droit de huer. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord, mais
tu
as le droit.
OK, parfait. Tu donnes le droit aux amateurs. OK, là, c'était l'interrogation. Voici la question maintenant. Mmh. Question très importante. Tu vas voir qu'on a même un thème qu'on a emprunté à Radio-Canada. On vient de baisser les lumières en studio. T'es pas avec nous, mais je te dis, il y a vraiment un stress, Louis, pour la prochaine.
Là, je suis nerveux, là.
La prochaine question. T'es nerveux, hein? Puis, sais-tu quoi? Je peux te rassurer, tu vas avoir une réponse pour moi. Je sais pas ça va être laquelle, mais je te convainc que tu vas avoir une réponse à la question. On fait quoi maintenant avec Kovalchuk?
On essaie de continuer de lui donner du temps de glace. On essaie de bien le faire paraître. On veut le mettre dans la vitrine au maximum. Et là, quand le temps sera venu, on écoute et on voit ce que ça va donner. La réalité, là, c'est qu'il y a de l'adrénaline dans ce qu'on voit actuellement. Je veux dire, il n'y a pas de doute, et je l'ai mentionné samedi soir après la rencontre, je pense que les partisans sont assoiffés de superstars. Ça fait quoi? C'est quand la dernière fois qu'on a eu une vedette, là, tu sais, un joueur vraiment d'impact. Je pense que ça remonte à peut-être 94, quand on avait Vincent Danfousse. Tu sais, de ces genres, de ces années-là, ça remonte à loin, là. Ça remonte à loin. Le dernier moment où les partisans allaient voir quelqu'un qui se disait, lui, quand il est sur la glace, tout peut arriver. Rocky a quitté, je me souviens plus quoi, c'est un petit peu plus tard que ça. Rocky avait quand même connu une grande carrière, peut-être au moins l'impact qu'on se serait attendu à Montréal, mais il n'empêche. Tu sais, je pense que c'est ça que le monde veut, c'est ce que les gens souhaitent. Alors là, ils voient en Kovalchuk là, presque le sauveur.
Ben oui.
C'est pas un sauveur, il a 36 ans.
Non.
Hein, oubliez ça. Alors pour moi, si t'es capable d'aller chercher quelque chose en retour de Kovalchuk, tant mieux. Tu vas pas faire les séries, fort probablement pas. Écoute, on n'est pas mathématiquement éliminé, mais c'est presque impossible. Alors va chercher quelque chose en retour. Et là, lui vient de se rendre compte à quel point il est apprécié à Montréal. Il vient de découvrir les partisans de Montréal qui semblent avoir souvent une relation d'amour avec les joueurs russes. Parlez-en à Alexis Kovalev, parlez-en à Alexander Radulov. Alors pour moi, si t'es capable d'avoir quelque chose, une bonne monnaie d'échange, échange-le, il va être joueur autonome à la fin de l'été, à la fin de la saison, c'est-à-dire peut-être que tu pourras le ramener si tu veux, pour pas grand-chose, espérons. Mais selon moi, tu peux pas te fier sur un joueur comme ça. C'est sûr qu'il peut plus jouer 21 minutes tout le temps. C'est le fun pendant que ça dure, mais ça peut pas durer comme ça pendant une longue période, pas sur 82 matchs, c'est impossible.
Deux choses. D'abord, les gens qui se demandent pourquoi le Canadien en arrache autant, c'est qu'Ilya Kovalchuk, actuellement, est le meilleur joueur. Fait que si lui, c'est le meilleur joueur à 36 ans, alors qu'il avait été largué par les Kings puis il jouait plus il y a 2-3 mois, ça explique un peu pourquoi le Canadien en arrache puis le Canadien va manquer les séries. Deuxième chose, Louis, si tu l'échanges d'ici au 24 février, tu enlèves le plaisir aux partisans d'aller au Centre Bell d'ici la fin de la saison, parce que c'est de loin le joueur préféré en date d'aujourd'hui. Je dis pas que Carey Price, les gens ont commencé à l'haïr. C'est pas ça que je dis. Mais c'est un attaquant qui procure un bonheur et un plaisir aux partisans en se présentant au Centre Bell. Tu leur enlèves ça d'ici la fin. Et à l'inverse, si tu le gardes en disant, comme tu as dit tantôt dans ton intro, c'est le sauveur, puis au 1er juillet ou d'ici la fin de la saison, tu lui donnes 2 ans, 5 millions, c'est de la foutaise.
T'as raison, t'as parfaitement raison et je suis d'accord avec toi. Mais si t'es un directeur général et tu te dis, ben là, faut que j'essaie de donner un petit, faut que je vende un peu de rêve aux partisans, je pense que tu fais pas ta job, je pense que ta vision, si c'est ça, sincèrement, je pense pas que t'es le gars qui devrait être en poste. Je suis pas sûr que je veux te donner les clés de mon organisation. Mais là, t'as touché un autre point important. T'as mentionné le nom de Carey Price. Et tu sais comment souvent, toi et moi, on a débattu dans le passé, à savoir Carey Price, son rôle, son importance. Je ne sais pas si tu as vu le sondage dans The Athletic, mais The Athletic a sondé 400 joueurs dans la Ligue nationale de hockey. Et la question qu'on leur a posée, outre ton gardien de but, quel est le gardien de but que tu voudrais avoir pour un 7e match de la finale de la Coupe Stanley? Qui est le premier à 33% de vote? Qui arrive au premier rang? Devine. Je te laisse, moi aussi, j'ai une devinette pour toi. Qui, selon toi, est au premier rang selon les joueurs?
Si tu m'en parles, j'imagine c'est Price, mais il faudrait qu'il se rende au 7e match de la finale de la Coupe.
C'est Carey Price. Tout ça pour dire que j'en ai parlé avec Will, j'en ai parlé souvent avec les téléspectateurs. Souvent, on m'écrit sur les médias sociaux, arrête de sortir ta cassette, arrête de défendre Price, arrête de défendre le Canadien tout le temps. Je ne défends pas le Canadien, je ne défends pas Carey Price. Je dis ce que je crois, ce que je pense et ce que j'entends et ce que je vois aussi. Et dans le cas de Carey Price, quand je te dis je parle avec des coachs ou des DG ou des recruteurs, et ils me disent Carey Price, là, nous autres à Montréal, on regarde 82 matchs, on regarde les matchs préparatoires, on l'entend régulièrement après les matchs, après les entraînements. À un moment donné, on est capable de voir ses forces. Puis quand ça va pas bien, tout ce qu'on voit, c'est les défauts. Et c'est drôle, ailleurs dans la Ligue nationale de hockey, les joueurs qui l'affrontent, ils disent, tu sais quoi, lui là, il est encore le top selon moi. Alors, écoute, je voulais juste ouvrir la parenthèse pour dire, les gens qui disent qu'on connaît pas ça, vous avez peut-être raison, peut-être qu'on n'est pas parfait, et je le suis certainement pas, mais quand je vous dis que c'est le son de cloche, c'est ce que les joueurs me disent, je suis pas en train de dire que Carey Price est toujours parfait et qu'il fait toujours le travail, mais il y a beaucoup de joueurs, 400 sur à peu près 700 dans la Ligue, qui eux disent, c'est encore le numéro un.
Mais ça se défend parce que si tu dis à quelqu'un, OK, admettons que tu dis que c'est pas lui le meilleur, c'est qui le meilleur? C'est très difficile parce que Jonathan Quick n'est plus le même gardien. Pekarinen n'est plus le même gardien qu'il a déjà été. Vasilevski, ça allait bien, mais ils ont perdu en 4 en série l'année dernière. Donc, c'est très difficile de nommer quelqu'un d'autre que Price. Par contre, pour jouer en finale de la Coupe au 7e match puis d'avoir Price, il faut que Price se rende là. Là, tu vas me dire qu'il n'y a pas une très bonne équipe.
Faut qu'il soit entouré aussi.
Oui.
Faut qu'il soit entouré.
Mais l'autre chose. C'est ça. Oui, mais l'autre chose, c'est que. Et là, les méchantes langues, vraiment méchantes langues. Moi, j'aurais jamais osé dire ça. Je vais juste rapporter ce que les gens disent. Les gens disent, comment expliquer que le meilleur gardien au monde n'est pas au match des étoiles?
Ah, oh, ben là, le match des étoiles, puis le scrutin, le vote et tout ça. Ça, c'est une autre affaire. Puis je pense qu'il est très heureux de pas y être en passant, parce qu'il reste quoi? 50 matchs aux Canadiens, 32 matchs, c'est-à-dire ils ont atteint le plateau des 50. Là. Alors écoute, lui, il va jouer beaucoup dans la deuxième moitié, dans le dernier droit de la saison, pour essayer au moins de garder cette équipe-là compétitive. Alors, il n'est pas là au match des étoiles. On aurait aimé ça le voir. On va voir Shea Weber qui va représenter le Canadien. So be it. C'est pas une épreuve de toute façon, c'est pas un week-end où les gardiens de but vont bien paraître de toute façon. Juste pour boucler la boucle par rapport à ce sondage-là, qui est le défenseur défensif, le meilleur défenseur défensif de la Ligue? On a dit que c'est Victor Hedman, mais au deuxième rang, Shea Weber. Un autre joueur que le monde semble dire, et en début de saison, il est fini, il est plus bon, il avance plus, il est plus tough comme il était.
Louis.
Ben, le monde semble quand même l'apprécier.
Non, j'en doute pas qu'il est bon. C'est juste que dans le plan de Bergevin, parce qu'il faut accepter le plan du vendeur de chars usagés, qui arrête pas de nous dire qu'en 2023-2024, cette équipe-là va être bonne, alors qu'il n'y a pas de garantie pour nous dire ça. Rendu là, Price et Weber vont être trop vieux. C'est juste ça que les amateurs
ça,
disent.
On est en accord. On est parfaitement d'accord.
C'est ça qui dérange les amateurs. C'est ça qui dérange les amateurs.
Oui, c'est je comprends. C'est pour ça que moi, je comprends la vision de Marc Bergevin dans ce qu'il essaie de bâtir. Mais je me dis, pourquoi ne pas capitaliser? Pourquoi ne pas vendre ton action? Là? Pourquoi ne pas la vendre quand elle est à son meilleur? Je veux dire, Shea Weber est au match des étoiles. On a un sondage qui dit, regardez ce que le monde pense de lui.
Ouais.
C'est un leader. Mais en même temps, quand j'essaie vraiment pas d'être sur la clôture, là, puis juste de donner 50% d'un côté, 50% de l'autre. Ce que j'essaie de dire, c'est que je crois vraiment, et je le vois, l'impact que Shea Weber a sur ses coéquipiers en termes de comment se comporter, tout ça. Et puis pour ce qui est de Carey Price, je veux dire, là, le problème, c'est que tu l'échanges, OK, mais tu mets qui? C'est ça l'affaire, c'est ça la grande question. Tu mets qui? Parce que si tu échanges un joueur comme ça, tu vas être pire que les Red Wings de Détroit après. Je te le dis, tu seras plus capable de gagner. Alors, il faut quand même que tu demeures compétitif. Tu vas mettre qui dans le filet?
Est-ce qu'avec 7 points, il faut que je te laisse là-dessus, mais est-ce qu'avec 7 points et le retour imminent de Drouin, il y a encore des partisans qui rêvent aux séries?
Ben oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a qui rêvent, mais est-ce qu'on rêve? Est-ce qu'on porte des petites lunettes roses? Est-ce qu'on est réaliste?
Un peu.
Peut-être pas, mais c'est ça la beauté du sport.
Exact.
Ça s'est déjà fait. C'est possible. En tout cas, c'est certainement pas impossible. Est-ce que moi, j'y crois? Non, pas vraiment. Tout ce que je souhaite, restez compétitif, continuez de vous battre.
Mais avec ça, il faut garder Kovalchuk, sinon les partisans vont avoir moins de fun à l'eau au Centre Bell. Un gros merci, Louis.
Toujours un plaisir. Salut, Dan.
Bonne soirée à toi. C'est tout pour l'émission de ce soir. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vais dire exactement ce que je dis à tous les jours. Je vous dis bonsoir. Merci.
Les meilleurs moments de l'avant-match sont disponibles maintenant sur fm93.com. FM 93. Ah!